C'est le feu. Midi, c'est l'heure du journal. Bonjour Alban Le Prince.
Bonjour Anne, bonjour à tous. Et à la une aujourd'hui, le Liban, pilonné pour la cinquième journée consécutive par l'armée israélienne. Benjamin Netanyahou, vous le disiez, le premier ministre israélien qui reste sourd pour l'instant aux appels au cessez-le-feu, doit s'exprimer dans 1h30 à la tribune des Nations Unies. Nous reviendrons également dans ce journal sur le Japon qui va avoir un nouveau premier ministre la semaine prochaine après l'élection aujourd'hui de Shigeru Ishiba. Au sommaire également, trois journalistes étrangers visés par une enquête en Russie. Ils auraient passé la frontière illégalement pour suivre les militaires ukrainiens lors de leur incursion à Koursk, et puis un fichage d'une ampleur inédite révélé dans la presse. Adresse personnelle, valeur de leur logement, opinion politique de plus de 500 personnes considérées comme critiques de l'agriculture intensive ont été partagées sur une plateforme américaine privée.
Le Liban connaît sa période la plus meurtrière en une génération, c'est ce qu'a dit il y a quelques minutes l'Organisation des Nations Unies.
Alors que Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, doit s'exprimer à la tribune de l'Assemblée Générale dans 1h30, car pour le cinquième jour consécutif, Israël a mené de nouvelles frappes ce matin contre le Hezbollah au Liban. Hier, des maires du nord d'Israël se sont rassemblés pour refuser l'arrêt de l'offensive israélienne. L'armée se prépare quant à elle à une éventuelle opération terrestre au Liban qui serait, selon un responsable sécuritaire israélien, aussi courte que possible. Les Palestiniens d'Israël qui vivent dans le nord du pays tiennent un autre discours. Reportage de l'envoyé spécial de RFI à Nazareth, première ville arabe d'Israël, David Baché.
Le souk de Nazareth, habituellement rempli de pèlerins et de touristes, est quasi désert. Attablé avec un ami devant un café, Issal Haytak se présente dans l'ordre comme arabe palestinien, chrétien, vivant en Israël. Il déplore l'offensive israélienne au Liban, mais pas seulement. Sa réponse est volontairement globale.
Je suis triste de voir cette situation. Avec cette escalade, il y a des enfants qui meurent et qui ont faim. L'État israélien est paralysé, il y a des missiles qui tombent, c'est vraiment très triste.
Le gouvernement israélien dit que l'opération au Liban vise à protéger la population israélienne, ici en Galilée, dans le nord d'Israël.
Si seulement c'était vrai. Il faut faire la paix, si seulement c'était vrai.
Ali Souleymane est arabe, musulman, israélien, un humain, préfère-t-il dire. Soutient-il ou condamne-t-il l'offensive israélienne au Liban? Là encore, il corrige.
La vraie question, c'est qui a permis au Hezbollah de prendre une telle dimension? C'est le gouvernement israélien. Aujourd'hui, Israël n'a plus le choix et doit vaincre le Hezbollah. Mais c'est à cause de Benjamin Netanyahou. Je le respecte sur beaucoup de points, mais il a permis à l'ennemi de grandir, pour des raisons personnelles, pour se maintenir au pouvoir et pour survivre politiquement.
Une proposition de cessez-le-feu soutenue par plusieurs pays occidentaux et arabes a été balayée par le premier ministre israélien. David Baché, de retour de Nazareth, Haïfa, RFI.
Et ces bombardements qui touchent depuis maintenant 5 jours le Liban, ils ont déjà fait plus de 600 morts, dont de nombreux civils, mais aussi un demi-million de déplacés, selon le ministre libanais des Affaires étrangères. 500 000 personnes qui ne savent pas si et quand elles pourront rentrer chez elles. Une incertitude qui complique l'organisation d'une réponse humanitaire à la hauteur, regrette Christophe Nouliérac, porte-parole de l'UNICEF au Liban.
C'est très difficile, cette incertitude. On ne sait pas si ces enfants vont être, et leurs familles, hein, vont être dans ces centres de fortune. On ne sait pas s'ils vont rester là 3 jours, on ne sait pas s'ils vont rester là 3 semaines, 3 mois. Ça dépend vraiment de la situation sécuritaire. Nous avons beaucoup d'incertitudes ici, mais il faudra également beaucoup de moyens pour faire en sorte que ces gens puissent, j'espère, rentrer chez eux. Donc beaucoup de reconstruction, beaucoup de remise en état. Il y a des pompes, vous savez, des établissements qui permettent de distribuer l'eau, qui sont détruits. Ça prive des dizaines de milliers de personnes en accès à l'eau. Vous savez que quand on n'a pas accès à l'eau, c'est le début d'énormes problèmes. Donc puis après, il faudra pouvoir reconstruire et faire en sorte qu'une vie normale puisse être retrouvée. Nous avons plusieurs options et effectivement, le retour, c'est l'option idéale, mais nous n'avons absolument aucune certitude sur ce qui va se passer et il faut donc se préparer pour répondre non seulement à l'urgence mais à toutes les options possibles.
Des propos recueillis par Oriane Verdier. Ce chiffre alarmant à présent, 3661 personnes ont été tuées depuis le mois de janvier en Haïti, ravagées par la violence des gangs. Chiffre dévoilé aujourd'hui par les Nations Unies qui pointe du doigt le manque d'équipement et de personnel de la mission multinationale de police menée par le Kenya pour aider la police haïtienne. Dans son rapport, l'ONU fait aussi état de tendances extrêmement graves de violations et d'abus de droits humains commis notamment à Port-au-Prince et dans le département de l'Artibonite. L'ouragan Helene rétrogradé en tempête tropicale aux États-Unis, mais les dégâts sont nombreux et le bilan s'est alourdi ce matin à 3 morts, 1 en Floride, 2 en Géorgie où le gouverneur appelle tous les habitants à se préparer à de nouveaux impacts dans un message posté sur X. Au total, ce sont 55 millions d'Américains qui ont été concernés par une alerte. Le service météorologique national indique de son côté qu'il pourrait entraîner des inondations sans précédent depuis plus d'un siècle.
La Chine annonce aujourd'hui vouloir améliorer ses relations avec le Japon.
Réaction après l'élection aujourd'hui de Shigeru Ishiba comme chef du Parti libéral-démocrate. Après 5 tentatives, l'homme de 67 ans prend donc la tête de la formation au pouvoir et deviendra Premier ministre mardi prochain, le 1er octobre. Il aura la lourde tâche de redresser son parti affaibli par les nombreux scandales et par 3 années de mandat de Fumio Kishida, relativement populaire dans la population dans un contexte de défiance généralisée envers les hommes politiques au Japon. Bonjour Nicolas Roca.
Bonjour Alban.
Nicolas, c'est un profil atypique qui arrive au pouvoir.
Oui, Shigeru Ishiba était connu pour sa rivalité interne avec Shinzo Abe. Ses critiques ouvertes et répétées envers les politiques menées par le gouvernement de l'ex-premier ministre lui ont coûté des soutiens importants au sein du parti, ce qui explique partiellement ses 4 échecs à l'élection de la présidence de sa formation politique qui dirige le Japon presque sans discontinuer depuis 1955. Ce stratège discret et spécialiste des questions de défense dont il a hérité par 2 fois du portefeuille ministériel, il se dit en faveur d'une forme d'OTAN asiatique face à la Chine et la Corée du Nord qu'il a visitée en 1992. Une initiative qui provoquerait l'ire de Pékin, mais il reste très prudent sur ses déclarations concernant le voisin chinois et souhaite rééquilibrer l'alliance militaire avec les États-Unis qu'il juge trop favorable à Washington. Son arrivée au pouvoir semble appréciée à Séoul, alors qu'il s'éloigne des thèses des ultra-conservateurs dont le révisionnisme historique a longtemps pollué la relation avec la Corée du Sud. Shigeru Ishiba devra aussi restaurer la confiance en son parti et redresser l'économie nippone. Ce partisan de la décentralisation du pays espère redynamiser les régions rurales en investissant dans la pêche, l'agriculture et les services.
Merci beaucoup Nicolas Roca.
Cette enquête ouverte en Russie qui vise des journalistes étrangers.
Accusés d'avoir franchi illégalement la frontière pour réaliser des reportages dans la région de Koursk. 2 sont américains, l'autre est roumain. Tous auraient suivi les troupes ukrainiennes lors de l'incursion réalisée dans cette région frontalière. Daniel Valo, bonjour.
Bonjour.
C'est le FSB, le service de sécurité russe, qui annonce ce vendredi l'ouverture de cette enquête.
Oui, dans un communiqué repris ce matin par les agences de presse russes, le FSB annonce l'ouverture d'enquête pénale contre 2 journalistes américains travaillant pour la chaîne australienne ABC et contre un journaliste roumain travaillant lui pour le média Hot News. Tous 3 ont publié des reportages écrits et vidéos dans la région de Koursk. Ils avaient accompagné l'armée ukrainienne jusqu'à la ville de Soudja, principale localité prise par les Ukrainiens à la suite de leur incursion. La journaliste Catherine Dis, dans son article publié au début du mois sur le site d'ABC, raconte son arrivée dans la ville. Elle décrit les stigmates des combats, les signes de la présence ukrainienne et elle évoque ses échanges avec les quelques habitants restés sur place. Au début du reportage, elle se dit consciente du fait que son passage de la frontière avec l'armée ukrainienne sera considéré comme un acte illégal par les autorités russes et qu'elle ne pourra plus, de ce fait, retourner en Russie. Au total, ce sont 12 journalistes étrangers qui sont accusés par Moscou d'avoir franchi illégalement la frontière dans ce cadre et qui risquent, en théorie, jusqu'à 5 ans de prison, en théorie, puisque ces journalistes se trouvent hors du territoire russe. Des procédures ont été ouvertes, notamment contre des journalistes de CNN, de la RAI ou encore de la Deutsche Welle.
Daniel Valo. Notez également qu'un procès s'ouvre aujourd'hui à Moscou, celui d'un ressortissant américain de 72 ans, originaire du Michigan, jugé pour mercenariat au service de l'Ukraine. C'est ce qu'annonce l'agence d'État RIA Novosti, qui précise qu'il vivait en Ukraine depuis 2014. L'homme, qui risque 7 à 15 ans de prison, comparaît en détention. La Cour a décidé de le placer en prison jusqu'au 25 mars prochain, selon cette même agence. Washington dénonce une politique de prise d'otages destinée à obtenir la libération d'agents russes détenus à l'étranger. l'étranger.
L'Église devrait avoir honte et demander pardon pour les violences sexuelles commises par des membres du clergé.
Le mea culpa du pape François aujourd'hui en visite en Belgique. Le souverain pontife qui avait déjà promis une tolérance zéro sur ce sujet doit recevoir en fin de journée à la Annonciature à Bruxelles, c'est-à-dire l'ambassade du Saint-Siège, 15 victimes de viols ou d'agressions sexuelles par des ecclésiastiques en Belgique au siècle dernier. Il prononcera également un discours devant des professeurs et chercheurs de l'Université catholique de Louvain en Flandre sur la question de la migration et de l'accueil des réfugiés. En Inde, 5 personnes ont été interpellées, annonce aujourd'hui de la police après le meurtre d'un garçon de 7 ans lors d'un sacrifice rituel destiné à porter chance à son école. L'enfant devait être brûlé sur un bûcher, mais il a été tué avant que la cérémonie n'aille à son terme, selon un officier de police. Parmi les personnes arrêtées figurent le directeur de l'école, son père et 3 enseignants.
Retour en France, J-4 avant la déclaration de politique générale de Michel Barnier devant l'Assemblée nationale.
Le Premier ministre prépare cet exercice aujourd'hui avec ses ministres à l'occasion d'un séminaire à Matignon. Parmi les sujets sensibles, la question de la suppression de l'aide médicale d'État, l'AME, qui permet la prise en charge des étrangers sans papier. D'anciens ministres de la Santé montent-au-créneau et s'y opposent en signant une tribune publiée dans le journal Le Monde. Valérie Gasse, Michel Barnier est sous pression.
À peine nommé place Beauvau, Bruno Retailleau a redit sa volonté de revoir le dispositif de l'aide médicale d'État, l'AME, dont il avait déjà défendu lors de l'examen de la loi immigration, la transformation en aide médicale d'urgence afin de réduire le panier de soins pris en charge pour les sans-papiers. Mais pour 8 anciens ministres de la Santé, notamment Roselyne Bachelot, Agnès Buzyn, Olivier Véran, cela aurait des conséquences sanitaires, humaines, sociales et économiques inacceptables. Une levée de bouclier qui ne doit rien au hasard. Michel Barnier va expliquer le 1er octobre la politique qu'il veut mener devant les députés. Un moment de clarification sur le fond très attendu, notamment par le Rassemblement national, pour lequel l'immigration est un sujet prioritaire, le parti de Marine Le Pen, qui demande lui aussi la suppression de l'AME. Quand la gauche la refuse, Michel Barnier va avoir à trancher sur ce sujet hautement symbolique et sa décision fâchera forcément un camp. Au sein même des partis qui le soutiennent, il n'y a pas d'accord. Les députés Ensemble et Modem sont opposés à toute atteinte à l'AME. La droite républicaine y est favorable. Michel Barnier, menacé de censure, va devoir choisir vers qui il agite le chiffon rouge.
Valérie Gasse, chef du service politique de RFI.
Adresse personnelle, valeur de leur maison ou de leur appartement, hobby, opinion politique, état de santé de leurs proches.
Des informations personnelles concernant plus de 500 scientifiques, journalistes, militants écologistes ou encore experts auprès de l'ONU, considérés comme critiques de l'agriculture intensive, ont été listées et partagées sur une plateforme américaine privée à destination des cadres de l'industrie chimique. C'est le média d'investigation Lighthouse Reports, associé à plusieurs journaux internationaux, dont Le Monde qui le révèle. Bonjour Lucie. Gimbert.
Bonjour.
On parle d'un fichage d'une ampleur inédite.
Oui, l'échelle, la précision et le caractère international de ce fichier sont inédits, écrit le journal Le Monde. À part quelques militants écologistes célèbres comme l'Indienne Vandana Shiva ou le Nigérian Nimo Basset, la plupart des personnes fichées sont des scientifiques inconnus du grand public mais qui ont travaillé sur les dégâts des pesticides, sur l'environnement et sur la santé humaine, par exemple l'impact de l'agrochimie sur les abeilles ou sur la fertilité masculine. On y trouve aussi 2 ex-rapporteurs spéciaux de l'ONU qui ont proposé en 2017 un traité international pour réglementer et bannir les pesticides dangereux en agriculture et même 2 critiques culinaires du New York Times. La plateforme baptisée Bonus Eventus qui compilait des données très personnelles sur toutes ces personnes à destination des cadres de l'industrie des pesticides, eh bien, elle est pilotée par VFluence, une entreprise de gestion de réputation spécialisée dans la défense de l'agro-industrie. Son patron, un ancien de la firme Monsanto, assure que toutes ces informations sont publiquement accessibles. Il n'empêche, cette base de données ressemble à une réserve de munitions pour tenter de déstabiliser, décrédibiliser ou nuire à celles et ceux que l'agrochimie considère comme ses opposants.
Lucille Gimbert.
À quelques mois d'un sommet sur l'intelligence artificielle prévu en février en France, c'est sur ce thème qu'Emmanuel Macron a achevé sa visite au Canada.
Le Canada, un pays en pointe sur l'intelligence artificielle, à Montréal par exemple, le métro pourrait bientôt être équipé d'un système de vidéosurveillance en intelligence artificielle qui pourra détecter les secondes précédant les tentatives de suicide pour tenter de les empêcher. Décryptage avec Alexis Gacon.
Grâce à des vidéos captées de moments qui précèdent les tentatives de suicide dans le métro, l'intelligence artificielle va pouvoir s'entraîner à reconnaître des signes avant-coureurs, comme des gens qui laissent passer plusieurs métros ou qui s'approchent très près du bout du quai. Le projet de recherche est sous la responsabilité du professeur d'informatique à l'université Teluk, Wassim Bouachir.
Je pense qu'il faut utiliser ces technologies-là comme un moyen d'aide à la décision. Les opérateurs humains ne sont pas capables de surveiller toutes les caméras qui sont disponibles. Donc, ce que peut faire la vidéosurveillance intelligente, c'est attirer l'attention à une situation en particulier ou à un environnement en particulier.
Habitué du métro, Felipe voit plutôt du bon dans ce projet de recherche.
C'est pour aider les gens, c'est une bonne idée, oui.
Mais France s'interroge sur l'omniprésence de l'intelligence artificielle dans l'espace public.
Il y a des bonnes intentions, mais à chaque pas qu'on fait, il y a une technologie quelque part.
Prochaine station, Mont-Royal.
Le modèle va d'abord être testé dans quelques stations dans le cadre d'un projet pilote. Alexis Gacon, Montréal, RFI.
Il est 14h15 à Paris, midi 15, temps universel, c'était Voine Cantner.
Merci Alban Leprince. Nos auditeurs vous retrouvent dans 2 heures pour un prochain journal. Et nous parlons de l'actualité sportive tout de suite. Avec Babacar Diarra, bonjour.
Bonjour Anne.
On va commencer par du football et les supporters lyonnais qui ont retrouvé le sourire hier soir.
Grâce à la victoire des Gones à domicile, 2-0 face à l'Olympiakos Le Pirée en lancement de leur phase de poule de Ligue Europa. Les deux buts sont l'œuvre de joueurs plus ou moins décriés récemment, Ryan Cherki et Saïd Benrahma. Lyon ressort la tête de l'eau après sa défaite en championnat face à l'OM dimanche dernier. Et Cherki, formé au club, a apprécié l'état d'esprit de l'équipe, apparemment revigoré par les mots de l'entraîneur Pierre Sage à la pause.
Ça nous tenait à cœur de rentrer dans la compétition de la meilleure des manières, c'est chose faite. Qu'est-ce qu'on a appris par rapport à dimanche ? On savait que c'était une grosse désillusion dimanche parce que quand on voit le match qu'on fait, toutes les occasions qu'on se crée, on n'aurait jamais dû perdre. Donc on était vraiment, vraiment remontés pour gagner ce match-là. Et je pense que ce qui a fait la différence aujourd'hui, c'est le discours du coach. Franchement, il nous a bien remis dedans, il nous a donné la confiance qu'il fallait. Et je pense que ça s'est retransmis sur le terrain.
L'OL poursuivra son parcours européen jeudi prochain avec un déplacement en Écosse chez les Glasgow Rangers. Auparavant, il y aura la 6e journée de Ligue 1 dimanche et un match à Toulouse.
Et dès ce soir, le PSG, leader de Ligue 1, reçoit le Stade Rennais.
Le week-end dernier, les Parisiens ont concédé leur premier point de la saison en quittant Reims avec un match nul. Ce soir, leur groupe sera assez réduit avec les absences entre autres de Gianluigi Donnarumma, Nuno Mendes, Vitinha ou encore Désiré Doué, ex-Rennais. Et en face, justement, les Bretons, 8e au classement, reste sur une victoire contre Montpellier et un nul contre Lens avec un joueur qui s'affirme de plus en plus au sein de la défense, l'international ghanéen de 24 ans Alidou Seydou, recruté au poste d'arrière latéral. Il a été utilisé par 2 fois dans un rôle plus axial au sein d'une défense à 3. Son entraîneur Julien Stéphan n'est pas surpris de la capacité d'adaptation d'Alidou Seydou qu'il voit aller très loin.
Je trouve qu'il avait fait aussi gros match contre Lyon en jouant latéral gauche. Je pense que de l'avoir utilisé, et ça peut être encore le cas, de l'avoir utilisé à différents postes, je pense qu'à n'importe quel âge, ça nourrit le joueur. Ça le nourrit, ça continue à développer sa réflexion sur le jeu. Quand tu joues axial droit ou axial gauche dans une défense à 3, surtout quand on demande de prendre des initiatives avec le ballon, il est exposé ce poste-là. Parce qu'il faut des responsabilités, il faut du caractère pour sortir le ballon. Il est aussi exposé parce que quand les pistons jouent aussi haut, il y a une zone importante à couvrir dans leur dos. Mais il a toutes les qualités à la fois athlétiques et d'engagement pour pouvoir gérer ça. Donc oui, il a vocation à devenir un des leaders, mais il a aussi vocation à avoir beaucoup de responsabilités dans le jeu collectif de l'équipe.
L'entraîneur rennais Julien Stéphan avant PSG Rennes au Parc des Princes. Coup d'envoi à 19h temps universel. En levée de rideau de la 6e journée de Ligue 1, Auxerre 16e reçoit Brest 11e.
En tennis, les Français ont eu des résultats mitigés ce matin à l'occasion de la tournée asiatique.
Alors on va prendre dans l'ordre chronologique. Commençons par le tournoi ATP 500 de Pékin avec les défaites toutes en 2-7 de Gaël Monfils contre Daniil Medvedev. Rinderknecht face à Roberto Bautista Agut et de Giovanni Pecci Pericard devant Carlos Alcaraz, l'un des 2 favoris du tournoi chinois. Un peu plus à l'est, au tournoi ATP 500 de Tokyo, Arthur Fils est lui qualifié pour le 2e tour. Le francilien avait perdu le premier set au tie-break face à Matteo Berrettini, mais l'italien s'est présenté pour le 2e set avant de très rapidement dire stop en raison de douleurs abdominales. Arthur Fils file donc en quart où il affrontera l'américain Ben Shelton.
Et pour terminer, une bonne nouvelle. Elle concerne l'athlète olympienne béninoise portée disparue depuis le 10 septembre dernier.
Odile Aouan-Wanou a retrouvé son domicile la nuit dernière, selon la police de Seine-Maritime. Un appel à témoins avait été lancé pour retrouver la triple championne d'Afrique d'heptathlon, dont le dernier signe de vie avait été sa présentation chez une assistante maternelle de Sotteville-lès-Rouen, où elle avait ensuite laissé son fils. Depuis, son entourage familial ou sportif était dans le flou total. Pour le moment, aucune explication n'a filtré concernant les raisons de cette disparition.
Merci Babacar Diarra. Toute l'actualité sportive est aussi sur internet, rfi.fr.
RFI. Le Monde à midi.
Le Premier ministre israélien est attendu à la tribune des Nations Unies aujourd'hui, très attendu quelques jours après le début de la guerre au Liban. Et alors qu'une dizaine de pays ont proposé avant-hier un cessez-le-feu. Les réponses ne sont pas très claires pour l'instant. On comprend bien que non, mais les mots varient. Et Dominique Vidal est en ligne avec nous pour analyser ce double discours. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste, historien, vous avez écrit avec Philippe Rekatsiewicz le livre « Palestine-Israël, une histoire visuelle » qui paraîtra le mois prochain aux éditions du Seuil. Alors, Benjamin Netanyahou a été très clair en s'exprimant en hébreu à son arrivée à New York. Pas de trêve tant que les objectifs ne seront pas atteints. Mais lorsqu'il a parlé en anglais, le Premier ministre israélien a plutôt insisté sur le fait que ses équipes avaient discuté du cessez-le-feu, qu'elles continueraient à le faire. À qui s'adressent ces deux messages ?
Ben, si vous voulez, je crois qu'on arrive à un moment difficile pour Benjamin Netanyahou, parce que, bien sûr, il y a eu une grande émotion il y a un an, ou presque, au moment de l'opération terroriste du Hamas le 7 octobre, et ça a permis à Israël de développer une riposte qui a pris très vite des proportions sans commune mesure avec ce qui était arrivé. On a eu petit à petit à la fois une destruction systématique de Gaza avec la mort de plusieurs dizaines de milliers de Gazaouis, en majorité des femmes et des enfants. On a eu une extension des combats en Cisjordanie, on a eu des bombardements en Syrie, on a eu des attaques en Iran même, où les Israéliens sont intervenus pour tuer un des principaux dirigeants du Hamas. Et on a, depuis quelques jours, comme vous le dites, cette opération au Liban qui a déjà fait plusieurs centaines de victimes, essentiellement des civils, comme toujours.
Est-ce que ce double discours, si on peut dire, de Benjamin Netanyahou, une version en tout cas un peu moins directe et plus policée lorsqu'il parle en anglais, c'est-à-dire a priori plus à la communauté internationale, est aussi le reflet de pression dont il fait l'objet ?
Oui, je crois qu'il essaye à la fois de continuer cette escalade ininterrompue depuis presque un an et de parler aux opinions dont il tient évidemment compte. À l'opinion israélienne, vous savez très bien que les mouvements des familles d'otages se sont radicalisés dans la dernière période en reprochant à Netanyahou de ne pas avoir signé les cessez-le-feu qui étaient proposés les uns après les autres par les Américains et par les Français, etc. Et puis, d'autre part, l'opinion mondiale. La communauté internationale était émue, je l'ai dit, et je le maintiens il y a un an, mais on ne peut pas justifier des centaines de milliers de victimes de disparition au nom de 1000 personnes qui ont été tuées dans des conditions horribles le 7 octobre de l'an dernier.
Et donc il y aurait une perception qui change au niveau international. Pourtant, une partie de son gouvernement ne s'est pas privée pour répondre à la proposition de cessez-le-feu qui était portée par une dizaine de pays, à commencer par les Nations Unies et par les États-Unis, pardon, et par la France. Ce sont les ministres les plus radicaux de Benjamin Netanyahou qui ont répondu en écartant toute idée de cessez-le-feu. Est-ce que aujourd'hui, le Premier ministre israélien peut aller contre leur volonté de poursuivre la guerre ?
Ben, il est clair qu'il doit choisir entre l'isolement international d'Israël et d'autre part une rupture, effectivement, avec les forces d'extrême droite grâce auxquelles il a sauvé son trône lors des élections du 1er novembre 2022.
On voit bien que la ligne de crête est de plus en plus fragile. Il y a quelques minutes, un responsable israélien de la sécurité a même parlé d'une possible intervention au sol qui serait selon lui la plus courte possible au Liban. Le Premier ministre israélien peut-il aujourd'hui assumer une guerre totale vis-à-vis de ses alliés occidentaux, et notamment les États-Unis ?
Je crois qu'il peut assumer beaucoup de choses, on l'a vu depuis un an, mais avec cette limite importante qui est que dans la grande perspective qui est la sienne, Israël a absolument besoin du soutien des États-Unis et des principales puissances occidentales. Sinon, il ne pourra pas continuer cette politique-là. Donc, il y a vraiment pour lui un choix à faire et c'est peut-être le jour de ce choix.
Et on connaît ce qui serait une ligne rouge au-delà de laquelle les Occidentaux peut-être commenceraient à moins soutenir le gouvernement israélien ?
Ah ben, s'il refusait le cessez-le-feu qui est maintenant proposé par la plupart des grandes nations de ce monde, il irait effectivement vers une situation difficilement tenable à l'intérieur comme à l'extérieur.
Alors je précise, puisqu'on ne l'a pas dit pour l'instant, quand on parle de cessez-le-feu, j'aurais dû le dire dès le début, qu'on parle d'un cessez-le-feu de 3 semaines au Liban.
Oui, oui,
Ce n'est pas un cessez-le-feu permanent. Vous avez mentionné tout à l'heure la colère des familles des otages du Hamas qui ont manifesté, qui ont protesté contre la ligne du Premier ministre israélien ces derniers temps. D'une manière générale, est-ce que Benjamin Netanyahou bénéficie aujourd'hui d'un certain soutien au sein de la population israélienne ?
Il est certain que par rapport à la situation qui existait avant le 7 octobre, il y a eu un certain nombre d'avancées pour Netanyahou dans la population israélienne. On a une population qui est ballottée dans cette situation étonnante, quoi, de guerre ininterrompue et qui escalade de jour en jour. Enfin, imaginez quand même que l'armée israélienne a envoyé ses avions pour faire une opération au Yémen après le tir d'un missile, un seul, du Yémen sur Israël.
Et cette guerre au Liban, elle est plutôt positive pour son image ou l'inverse ?
Le Liban, ça fait peur à tout le monde en Israël. Parce que les deux guerres qu'Israël a menées au Liban, il ne les a pas gagnées. Que ce soit en 1982, ça s'est fini dans le tohu-bohu épouvantable de Sabra et de Shatila, plusieurs milliers de morts palestiniens, avec au cœur de l'opération Ariel Sharon, qui a essayé de nier ensuite ses responsabilités. Mais
dans le camp de réfugiés palestiniens libanais, et puis la guerre suivante, ne s'était pas bien terminée non plus. Merci beaucoup,
voilà,
Dominique Vidal, d'avoir été en ligne avec nous.
Ça s'était fini avec plus de 1500 morts, et surtout des missiles que le Hezbollah continuait à jeter le jour même du cessez-le-feu.
Merci Dominique Vidal. Cette guerre, elle met à mal aussi le Hezbollah au Liban. Elle le fragilise au point que certains aujourd'hui s'interrogent sur son avenir. C'est ce qu'on peut entendre dans ce reportage de nos envoyés spéciaux Abla Jounaidi et Jadel Khoury.
Banlieue sud de Beyrouth, une attaque au missile touche un immeuble résidentiel faisant plusieurs victimes. Israël revendique à nouveau une frappe ciblée contre un commandant du Hezbollah dans cette zone contrôlée par le Parti de Dieu. Un habitant raconte.
Il y avait 3 missiles, ils sont tombés les uns après les autres. Mais c'est rien, on en a vu d'autres, on n'a pas peur.
Ces frappes qui déciment son commandement militaire sont un coup dur pour le mouvement chiite. Mais la base reste solide, c'est en tout cas ce qu'affirme Talal Atoum, ce voisin de l'immeuble frappé et membre du bureau politique du mouvement chiite Amal, allié du Hezbollah.
Israël cherche à atteindre la volonté de cette région et de son peuple. Il échouera, comme en 2006. À l'époque, cette zone a été complètement détruite à cause des bombardements israéliens. Mais elle est revenue à la vie, comme le phénix. Et je crois que l'ennemi le sait pertinemment. Il revient au commandement de la résistance de déterminer quand et où il répondra à cette attaque.
Un élément clé pour comprendre la popularité du mouvement chiite, même parmi des Libanais d'autres confessions, c'est le soutien à la cause des Palestiniens. À Saïda, dans le sud du Liban, on rencontre Ahmed. Sa famille a fui Gaza en 1967. Aujourd'hui, il vient en aide aux Libanais fuyant le front, alors que la frontière avec Israël s'embrase.
La position du Liban est noble pour nous, les Palestiniens. Le pays s'est battu pour défendre notre peuple et Gaza. Nous sommes fiers de nos frères libanais qui nous soutiennent dans cette épreuve en donnant ce qu'ils ont de plus précieux, en donnant leur sang. Ce n'est pas leur guerre. Dans la mesure de nos moyens, nous aidons ceux qui sont affectés. Beaucoup ont des proches morts au front ou qui travaillent bénévolement là-bas. Donc on essaie de s'occuper de leur famille.
Chez beaucoup de Libanais, c'est la lassitude qui l'emporte. Face au port de Beyrouth, défiguré comme pour toujours, Jean, un vieux chrétien d'Achrafieh, nous livre ses pensées sur le Hezbollah.
C'est lui qui a commencé à provoquer Israël. C'était une erreur, regardez, le sud est ravagé. Et tous ces jeunes qui meurent, ce sont nos enfants aussi. Pourquoi aucun pays arabe n'aide les Palestiniens? Pourquoi c'est au Hezbollah de le faire? Il faut que le Hezbollah se range. C'est un parti fort, mais il doit être libanais à 100%.
Mais la question est sans doute insoluble pour le mouvement chiite, car abandonner les armes, c'est perdre aussi son pouvoir politique. Abla Junaidi, Jad El Khoury, Beyrouth, RFI.
Et nous retrouverons nos envoyés spéciaux au Liban dans nos prochains journaux. Vous pouvez aussi suivre la situation au Liban, cette guerre et les bombardements israéliens sur notre site internet rfi.fr. Nos équipes vous proposent une couverture en direct des événements. Merci d'être avec nous. Vous ne bougez pas. On se retrouve dans un instant pour l'actualité africaine.